Hugo, hélas, répondait André Gide à l'enquêteur qui lui demandait le nom du plus grand poète français. Je répondrai Hugo, Dieu merci.
Gaëtan Picon, essayiste.
Hugo est le plus célèbre et le plus ignoré de nos écrivains. Sur son visage, la gloire est un masque.
Ça peut pas faire de mal.
Il est moins à célébrer qu'à découvrir. Et Léon-Paul Fargue disait de lui excellemment, voilà un poète d'avenir. Tout est dans Hugo. Il est l'épopée, le lyrisme, la fantaisie, la cocasserie, la satire. Il est le poète proté.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
La poésie s'adresse à l'homme tout entier. À l'adolescent, elle parle de l'amour, au père, de la famille, au vieillard, du passé. Et quoi qu'on fasse, quelles que soient les révolutions futures, soit qu'elles prennent les sociétés caduques aux entrailles, soit qu'elles leur écorchent seulement l'épiderme, à travers tous les changements politiques possibles, il y aura toujours des enfants, des mères, des jeunes filles, des vieillards, des hommes enfin, qui aimeront, qui se réjouiront, qui souffriront. C'est à eux que va la poésie. Les révolutions, ces glorieux changements d'âge de l'humanité, les révolutions transforment tout, excepté le cœur humain. Le cœur humain est comme la terre. On peut semer, on peut planter, on peut bâtir ce qu'on veut à sa surface, mais il n'en continuera pas moins à produire ses verdures, ses fleurs et ses fruits naturels. Jamais pioche ni sonde ne le troubleront à de certaines profondeurs. Ces lignes sont celles d'un homme qui a cru toute sa vie au pouvoir du verbe. Romancier, dramaturge et pamphlétaire, il n'a jamais douté que la poésie pouvait guider ses semblables et les aider à vivre. Cet homme, c'est Victor Hugo. À 15 ans déjà, l'adolescent rêvait d'un destin à la Chateaubriand. Et c'est en écrivant des poèmes qu'il connaît la gloire. D'abord, il met sa plume au service de la royauté, puis très vite, il s'intéresse à la cause du peuple. « Je n'écris que d'une main, dit-il, mais je combats des deux. » Dès lors, parcourir la poésie de Victor Hugo, c'est aussi traverser l'esprit d'un écrivain qui n'a cessé d'interroger son époque. Les injustices, les guerres, les révolutions, les coups d'État, Hugo écrit l'histoire avec un grand H, l'histoire des hommes et la sienne. Dans tous ses poèmes, il y a un peu de l'intérieur d'une âme qui nous livre ses doutes et ses chagrins. Ce soir, je vous propose de suivre le poète mage et de redécouvrir ses plus beaux poèmes, ceux qui parlent d'amour et parfois de mort, mais surtout de courage et d'espoir. Le poète doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin. Hugo écrit ceci dans la préface des Odes et Ballades en 1826. À cette époque, il a 24 ans. Il loue la grandeur de Louis XVIII puis de Charles X, mais déjà il a l'intuition de pouvoir faire davantage, d'être plus qu'un simple poète au service de la monarchie. Au fond de lui, il sait qu'il est né pour accomplir de grandes choses. Son enfance, Hugo l'évoque dans un poème devenu célèbre et extrait du recueil « Les feuilles d'automne ». C'est une sorte d'autoportrait, le voici. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fût, ainsi qu'une chimère, abandonné de tous excepté de sa mère, et que son cou ployé comme un frêle roseau fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je vous dirai peut-être quelques jours quel lait pur, que de soins, que de vœux, que d'amour, prodigué pour ma vie en naissant condamné, m'ont fait 2 fois l'enfant de ma mère obstinée, ange qui sur 3 fils attachait à ses pas et pendait son amour et ne mesurait pas. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie, table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Je pourrais dire un jour, lorsque la nuit douteuse fera parler les soirs ma vieillesse conteuse, comment ce haut destin de gloire et de terreur qui remuait le monde au pas de l'empereur, dans son souffle orageux m'emportant sans défense, à tous les vents de l'air fit flotter mon enfance. Car lorsque l'Aquilon bat ses flots palpitants, l'océan convulsif tourmente en même temps le navire à trois ponts qui tonne avec l'orage et la feuille échappée aux arbres du rivage. Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé, j'ai plus d'un souvenir profondément gravé, et l'on peut distinguer bien des choses passées dans ces plis de mon front que creusent mes pensées. Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux, tombé de lassitude au bout de tous ses vœux, pâlirait s'il voyait comme un gouffre dans l'onde, mon âme ou ma pensée habite comme un monde, tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai tenté, tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté, mon plus beau temps passé sans espoir qu'il renaisse, les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse, et quoi qu'encore à l'âge où l'avenir sourit, le livre de mon cœur à toute page écrit. Si parfois de mon sein s'envolent mes pensées, mes chansons par le monde en lambeaux dispersés, s'il me plaît de cacher l'amour et la douleur dans le coin d'un roman ironique et railleur, si j'ébranle la scène avec ma fantaisie, si j'entrechoque aux yeux d'une foule choisie d'autres hommes comme eux, vivant tous à la fois de mon souffle et parlant au peuple avec ma voix, si ma tête fournaise ou mon esprit s'allume, jette le verre des reins qui bouillonne et qui fume dans le rythme profond, moule mystérieux d'où sort la strophe ouvrant ses ailes dans les cieux, c'est que l'amour, la tombe et la gloire et la vie, l'onde qui fuit par l'onde incessamment suivie, tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal, fit reluire et vibrer mon âme de cristal. Mon âme aux mille voix que le Dieu que j'adore mit au centre de tout comme un écho sonore. D'ailleurs, j'ai purement passé les jours mauvais et je sais d'où je viens si j'ignore où je vais. L'orage départit avec son vent de flamme, sans en altérer l'onde, a remué mon âme. Rien d'immonde en mon cœur, pas de limon impur qui n'attendit qu'un vent pour en troubler l'azur. Après avoir chanté, j'écoute et je contemple. À l'empereur tombé, dressant dans l'ombre d'un temple, aimant la liberté pour ses fruits, pour ses fleurs, le trône pour son droit, le roi pour ses malheurs. Fidèle enfin au sang qu'on versait dans ma veine, mon père vieux soldat, ma mère vendéenne. Victor Hugo s'investit très tôt d'une mission, éclairer les hommes, les amener à penser et à rêver. C'est la fonction du poète qu'il détaille dans le recueil « Les rayons et les ombres » en 1840. Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies. Les pieds ici, les yeux ailleurs, c'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps, pareil au prophète, dans sa main où tout peut tenir, doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Hugo, le mage, s'engage rapidement en politique, d'abord à droite, du côté des conservateurs. En 1841, il est élu académicien et nommé pair de France. En 1848, surpris par la Révolution, il prend conscience des souffrances de ses concitoyens. Élu député sur une liste de droite, il est, dans la pratique, plutôt à gauche, mais s'entend bien avec le nouveau président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand empereur déchu. Malheureusement, le nouvel homme fort du pays ne tient pas ses promesses. Le coup d'État du 2 décembre 1851 rétablit l'Empire et provoque la chasse de tous les opposants. Victor Hugo, après avoir tenté en vain de soulever les foules, est forcé de partir. Il abandonne tout et s'en va en Belgique d'abord, avant de rejoindre bien plus tard Jersey et Guernsey. L'exil commence. Hugo part avec, chevillé au cœur, un désir de vengeance. Arrivé à Bruxelles et bien décidé à critiquer la tyrannie du nouvel empereur, il écrit à son éditeur Hetzel « Je m'occupe de Napoléon III. Je le conduirai à la postérité par l'oreille. » En quelques semaines, il écrit « Napoléon le Petit », un texte à charge contre le nain immonde. Et 2 ans plus tard, il publie « Les Châtiments », 100 poèmes qui tournent en dérision le pouvoir impérial. ce livre est une marche vers la lumière qui appelle le peuple à se réveiller. Puisque le juste est dans l'abîme, puisqu'on donne le sceptre au crime, puisque tous les droits sont trahis, puisque les plus fiers restent mornes, puisqu'on affiche au coin des bornes le déshonneur de mon pays, ô république de nos pères, grand panthéon plein de lumière, dôme d'or dans le libre azur, temple des ombres immortelles, puisqu'on vient avec des échelles coller l'empire sur ton mur, puisque toute âme est affaiblie, puisqu'on rampe, puisqu'on oublie le vrai, le pur, le grand, le beau, les yeux indignés de l'histoire, l'honneur, la loi, le droit, la gloire, et ceux qui sont dans le tombeau, je t'aime, exil, douleur, je t'aime. Tristesse soit mon diadème, je t'aime, altière pauvreté, j'aime ma porte au vent battu, j'aime le deuil, grave statue qui vient s'asseoir à mon côté. J'aime le malheur qui m'éprouve, et cette ombre où je vous retrouve, ô vous à qui mon cœur sourit, dignité, foi, vertu voilée, toi, liberté, fier exilé, et toi, dévouement, grand proscrit. J'aime cette île solitaire, Jersey, que la vieille Angleterre couvre de son vieux pavillon. L'eau noire par moments accrue, le navire errante, charrue, le flot mystérieux sillon. J'aime ta mouette, ô mer profonde, qui secoue en perles ton onde sur son aile aux fauves couleurs, plonge dans les lames géantes et sort de ses gueules béantes comme l'âme sort des douleurs. J'aime la roche solennelle d'où j'entends la plainte éternelle, sans trêve comme le remords, toujours renaissant dans les ombres, des vagues sur les écueils sombres, des mères sur leurs enfants morts. Victor Hugo n'a pas l'habitude de céder au désespoir. Il ne s'agit pas d'être ému, il s'agit de faire face. Voici ce qu'il répète inlassablement. Et il fait face, à sa manière, en écrivant l'une des plus violentes attaques ad hominem de son temps. Voici Napoléon III. Donc, c'est fait. Dû rugir de honte le canon, te voilà, nain immonde, accroupi sur ce nom. Cette gloire est ton trou, ta bauge, ta demeure. Toi qui n'as jamais pris la fortune qu'à l'heure, te voilà presque assis sur ce hautain sommet. Sur le chapeau d'Essling, tu plantes ton plumet. Tu mets, petit pousset, ces bottes de 7 lieues. Tu prends Napoléon dans les régions bleues. Tu fais travailler l'oncle et perroquet ravi, grimper à ton perchoir l'aigle de Mondovie. Tersite est le neveu d'Achille Péliade. C'est pour toi qu'on a fait toute cette Iliade. C'est pour toi qu'on livra ces combats inouïs. C'est pour toi que Murat, aux Russes éblouis, terribles, apparaissaient, cravachant leur armée. C'est pour toi qu'à travers la flamme et la fumée, les grenadiers pensifs s'avançaient à pas lents. C'est pour toi que mon père et mes oncles vaillants ont répandu leur sang dans ces guerres épiques. C'est pour toi qu'ont fourmillé les sabres et les piques, que tout le continent trembla sous Attila, et que Londres frémit et que Moscou brûla. C'est pour toi, pour tes deutes et pour tes mascarilles, pour que tu puisses boire avec de belles filles et la nuit t'attabler dans le Louvre à l'écart. C'est pour Monsieur Fialin et pour Monsieur Mocquard que l'âne d'un boulet eut la cuisse coupée, que le front des soldats entrouvert par l'épée saigna sous le shako, le casque et le colbac, que la salle à Wagram, Durox à Reichenbach expirèrent frappés au milieu de leur route, que Colincourt tomba dans la grande redoute et que la vieille garde est morte à Waterloo. C'est pour toi qu'agitant le pain et le bouleau, le vent fait aujourd'hui sous ses âpres haleines blanchir tant d'ossements, hélas, dans tant de plaines. Fac ! Tu t'es soudé, chargé d'un vil butin. Toi, l'homme du hasard, à l'homme du destin, tu fourres, impudent, ton front dans ses couronnes. Nous entendons claquer dans tes mains fanfaronnes ce fouet prodigieux qui conduisait les rois. Et tranquille, attelant à ton numéro 3, Austerlitz, Marengo, Rivoli, Saint-Jean d'Acre, aux chevaux du soleil, tu fais traîner ton fiacre.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognions aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremblant en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec l'isou blanche dîner chez Richard. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux.
On n'en a jamais fini avec Victor Hugo. C'est un monde, savez Victor Hugo. C'est un monde qui n'a pas cessé de s'élargir.
Henri Guillemin, historien.
Moi, je sais aussi qu'il y a des quantités de gens qui aujourd'hui encore vous disent « Oh, il était formidable ce Victor Hugo comme écrivain, mais il n'a absolument rien à nous dire ». Un homme comme Émile Faguet, par exemple, avec un fin sourire, vous disait au fond, vous savez, Victor Hugo, c'était un imbécile. Ben, ce que j'ai à vous dire, justement, c'est que Victor Hugo, c'est le contraire d'un homme creux. Et je voudrais commencer par une épigraphe, enfin tirer de lui-même, un des textes que j'ai retrouvé, où il disait « Mon destin aura été de vivre célèbre et ignoré. Je ne suis connu que de l'inconnu. »
Tout en travaillant à ses châtiments, Victor Hugo réfléchit depuis longtemps à ce qu'il désigne comme la grande pyramide de son œuvre, les Contemplations. Publié en 1856, un an exactement avant Les Fleurs du Mal de Baudelaire, ce livre est le tombeau de Léopoldine, la fille du poète qui est morte noyée à Villequier en 1843. Hugo ne s'est jamais remis de la perte de son enfant et il lui a consacré une séquence centrale dans son recueil. L'écrivain, exilé depuis peu à Jersey, contemple néanmoins le monde avec acuité et trouve la force de continuer à vivre grâce à l'écriture et au pouvoir du mot. Voici un extrait du livre premier des Contemplations. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant. La plume, qui d'une aile allongeait l'envergure, frémit sur le papier quand sort cette figure. Le mot, le terme, type, on ne sait d'où venu, face de l'invisible, aspect de l'inconnu, créé par qui, forgé par qui, jaillit de l'ombre, montant et descendant dans notre tête sombre, trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau, formule des lueurs flottantes du cerveau. Oui, vous tous comprenez que les mots sont des choses. Ils roulent pêle-mêle au gouffre obscur des proses, où font gronder les vers orageuses forêts. Du sphinx esprit humain, le mot sait le secret. Le mot veut, ne veut pas, accourt, fait ou bacchante, s'offre, se donne ou fuit. Devant Néron qui chante, ou Charles IX qui rime, il recule, hagard. Tel mot est un sourire et tel autre un regard. De quelques mots profonds, tout homme est le disciple. Toute force ici-bas a le mot pour multiple. Moulé sur le cerveau, vif ou lent, grave ou bref, le creux du crâne humain lui donne son relief. La vieille empreinte y reste auprès de la nouvelle. Ce qu'un mot ne sait pas, un autre le révèle. Les mots heurtent le front comme l'eau le récif. Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif des griffes ou des mains et quelques-uns des ailes. Comme en un âtre noir erre des étincelles. Rêveur, triste, joyeux, amer, sinistre, doux, sombre peuple, Les mots vont et viennent en nous. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Le cœur des contemplations a un titre, Pauca Meae, et un sujet, Léopoldine. Il est rare qu'Hugo mette autant de lui-même dans un texte. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis, la destinée est une, dit-il à son lecteur à qui il tend un miroir. Voici un poème écrit en 1846, 3 ans après la mort accidentelle de sa fille, et dans lequel il s'en prend à Dieu. Il est temps que je me repose. Je suis terrassé par le sort. Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Que veut-on que je recommence? Je ne demande désormais à la création immense qu'un peu de silence et de paix. Pourquoi m'appelez-vous encore? J'ai fait ma tâche et mon devoir. Qui travaillait avant l'aurore peut s'en aller avant le soir? À 20 ans, deuil et solitude, mes yeux baissés vers le gazon perdirent la douce habitude de voir ma chère à la maison. Elle nous quitta pour la tombe, et vous savez bien qu'aujourd'hui, je cherche en cette nuit qui tombe un autre ange qui s'est enfui. Vous savez que je désespère, que ma force en vain se défend, que je souffre comme un père, moi qui souffris tant comme enfant. Mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous. Comme Adam banni, je regarde ma destinée et je vois bien que j'ai fini. L'humble enfant que Dieu m'a ravi, rien qu'en m'aimant, savait m'aider. C'était le bonheur de ma vie, de voir ses yeux me regarder. Si ce Dieu n'a pas voulu clore l'œuvre qu'il me fit commencer, s'il veut que je travaille encore, il n'avait qu'à me la laisser. Il n'avait qu'à me laisser vivre avec ma fille à mes côtés, dans cette extase où je m'enivre de mystérieuses clartés. Ces clartés jour d'une autre sphère, ô Dieu jaloux, tu nous les vends. Pourquoi m'as-tu pris la lumière que j'avais parmi les vivants? As-tu donc pensé, fatal maître, qu'à force de te contempler, je ne voyais plus ce doux être et qu'il pouvait bien s'en aller? T'es-tu dit que l'homme, vaine ombre, hélas, perd son humanité à trop voir cette splendeur sombre qu'on appelle la vérité? Qu'on peut le frapper sans qu'il souffre, que son cœur est mort dans l'ennui, et qu'à force de voir le gouffre, il n'a plus qu'un abîme en lui, qu'il va, stoïque, où tu l'envoies, et que désormais endurci, n'ayant plus ici-bas de joie, il n'a plus de douleur aussi? As-tu pensé qu'une âme tendre s'ouvre à toi pour se mieux fermer, et que ceux qui veulent comprendre finissent par ne plus aimer? Ô Dieu, vraiment, as-tu pu croire que je préférerais sous les cieux l'effrayant rayon de ta gloire aux douces lueurs de ses yeux? Si j'avais su tes lois moroses, et qu'au même esprit enchanté, tu ne donnes point ces deux choses, le bonheur et la vérité, plutôt que de lever tes voiles et de chercher, cœur triste et pur, à te voir au fond des étoiles, ô Dieu sombre d'un monde obscur, j'eusse aimé mieux, loin de ta face, suivre, heureux, un étroit chemin, et n'être qu'un homme qui passe, tenant son enfant par la main. Maintenant je veux qu'on me laisse. J'ai fini, le sort est vainqueur. Que vient-on rallumer sans cesse dans l'ombre qui m'emplit mon cœur? Vous qui me parlez, vous me dites qu'il faut, rappelant ma raison, guider les foules décrépites vers les lueurs de l'horizon. Qu'à l'heure où les peuples se lèvent, tout penseur suit un but profond, qu'il se doit à tous ceux qui rêvent, qu'il se doit à tous ceux qui vont. Qu'une âme, qu'un feu pur anime, doit hâter avec sa clarté l'épanouissement sublime de la future humanité, qu'il faut prendre part, cœur fidèle, sans redouter les océans, aux fêtes des choses nouvelles, au combat des esprits géants. Vous voyez des pleurs sur ma joue, et vous m'abordez mécontent, comme par le bras on secoue un homme qui dort trop longtemps. Mais songez à ce que vous faites. Hélas, cet ange au front si beau, quand vous m'appelez à vos fêtes, peut-être a froid dans son tombeau. Peut-être livide et pâli, dit-elle dans son lit étroit, est-ce que mon père m'oublie et n'est plus là que j'ai si froid? Quoi, lorsqu'à peine je résiste aux choses dont je me souviens, quand je suis brisé, là et triste, quand je l'entends qui me dit « viens ». Quoi, vous voulez que je souhaite, moi plié par un coup soudain, la rumeur qui suit le poète, le bruit que fait le paladin? Vous voulez que j'aspire encore au triomphe doux et doré, que j'annonce aux dormeurs l'aurore, que je crie « allez, espérez ». Vous voulez que, dans la mêlée, je rentre ardent parmi les forts, les yeux à la voûte étoilée? Oh, l'herbe épaisse, où sont les morts? Un autre poème tout aussi beau mais bref a marqué ces années de deuil, un des plus célèbres. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Le sixième des contemplations s'ouvre au bord de l'infini. Après la tentation de la mort, voici l'éclaircie. Le poète reprend doucement espoir et conjugue ses mots au futur. Voici Ibo. Dites, pourquoi dans l'insondable, au mur des reins, dans l'obscurité formidable du ciel serein, pourquoi dans ce grand sanctuaire sourd et béni, pourquoi sous l'immense suaire de l'infini, enfouir vos lois éternelles et vos clartés? Vous savez bien que j'ai des ailes, ô vérité. Pourquoi vous cachez-vous dans l'ombre qui nous confond? Pourquoi fuyez-vous l'homme sombre au vol profond? Que le mal détruise ou bâtisse, rampe ou soit roi, tu sais bien que j'irai justice, j'irai vers toi. Beauté sainte, idéale qui germe chez les souffrants, toi par qui les esprits sont fermes et les cœurs grands, vous le savez, vous que j'adore, amour, raison, qui vous levez comme l'aurore sur l'horizon, foi, sainte d'un cercle d'étoiles, droit, bien de tout, j'irai, liberté qui te voile, j'irai vers vous. Vous avez beau sans fin, sans borne, lueur de Dieu, habiter la profondeur morne du gouffre bleu, âme à l'abîme habituée dès le berceau, je n'ai pas peur de la nuée, je suis oiseau. Je suis oiseau comme cet être qu'Amos rêvait, que saint Marc voyait apparaître à son chevet, qui mêlait sur sa tête fière dans les rayons l'aile de l'aigle à la crinière des grands lions. J'ai des ailes, j'aspire aux fêtes, Mon vol est sûr, j'ai des ailes pour la tempête et pour l'azur. Je gravis les marches sans nombre, je veux savoir. Quand la science serait sombre comme le soir, vous savez bien que l'âme affronte ce noir degré et que si haut qu'il faut qu'on monte, j'y monterai. Vous savez bien que l'âme est forte et ne craint rien quand le souffle de Dieu l'emporte. Vous savez bien que j'irai jusqu'au bleu pilastre et que mon pas sur l'échelle qui monte aux astres ne tremble pas. L'homme en cette époque agitée, sombre océan, doit faire comme Prométhée et comme Adam. Il doit ravir au ciel austère l'éternel feu, conquérir son propre mystère et voler Dieu. L'homme a besoin dans sa chaumière des vents battus, d'une loi qui soit sa lumière et sa vertu. Toujours ignorance et misère, l'homme en vain fuit, le sort le tient, toujours la serre, toujours la nuit. Il faut que le peuple s'arrache au dur décret et qu'enfin ce grand martyr sache le grand secret. Déjà l'amour dans l'air obscur qui va finir dessine la vague figure de l'avenir. Les lois de nos destins sur terre, Dieu les écrit. Et si ces lois sont le mystère, je suis l'esprit. Je suis celui que rien n'arrête, celui qui va, celui dont l'âme est toujours prête à Jéhovah. Je suis le poète farouche, l'homme devoir, le souffle des douleurs, la bouche du clairon noir, le rêveur qui sur ses registres met les vivants, qui mêle des strophes sinistres aux quatre vents, le songeur ailé, l'âpre athlète aux bras nerveux, et je traînerai la comète par les cheveux. Donc les lois de notre problème, je les aurai. J'irai vers elle, penseur blême, mage effaré. Pourquoi cacher ces lois profondes? Rien n'est muré. Dans vos flammes et dans vos ondes, je passerai. J'irai lire la grande Bible. J'entrerai nu jusqu'au tabernacle terrible de l'inconnu. Jusqu'au seuil de l'ombre et du vide, gouffres ouverts que garde la meute livide des noirs éclairs. Jusqu'aux portes visionnaires du ciel sacré. Et si vous aboyez, tonnerre, je rugirai.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
L'exil est une période très prolifique pour Hugo. Les châtiments, les contemplations et une grande partie des Misérables sont écrits durant ces longues années, tout comme la Légende des siècles, l'œuvre la plus ambitieuse du poète. Lui qui a vécu d'importants bouleversements politiques et intimes veut écrire l'histoire avec un grand H depuis son commencement et surtout peindre l'homme, figure une et multiple, lugubre et rayonnante, fatale et sacrée. Voici « À l'homme » extrait de la série de poèmes publiés en 1877. Si tu vas devant toi pour aller devant toi, c'est bien. L'homme se meut et c'est là son emploi. C'est en errant ainsi, c'est en jetant la sonde que l'air trouve une loi, que Colomb trouve un monde. Mais rêvant l'absolu, si c'est Dieu que tu veux, prendre comme on prendrait un fuyard aux cheveux, si tu prétends aller jusqu'à la fin des choses, et là, debout, devant cette cause des causes, Uranus des païens, Sabaoth des chrétiens, dire « Réalité terrible, je te tiens », tu perds ta peine. Ajuste au fils quelconque d'Ève, n'importe quel calcul à n'importe quel rêve, ajoute à l'hypothèse une lunette et met des chiffres l'un sur l'autre à courir les sommets de l'Athos, du Mont Blanc farouche, du Vésuve, monte sur le cratère ou plonge dans la cuve, fouille, creuse, escalade, envole-toi, descend, fait faire par gambet des vers grossissants, guette, plane avec l'aigle ou rampe avec le crabe, croit tout, doute de tout, apprend l'hébreu, l'arabe, le chinois, soit hindou, grec, bouddhiste, arien, va, tu ne saisiras l'extrémité de rien. Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable. Le réel, ce fond vrai d'où sort toute la fable, c'est la nature en fuite à jamais dans la nuit. Le télescope au fond du ciel noir la poursuit. Le microscope court dans l'abîme après elle. Elle est inaccessible, imprenable, éternelle. Et n'est pas moins énorme en dessous qu'en dessus. Des aspects effrayants sont partout aperçus. Le spectre vibrion vaut le soleil fantôme. Un monde plus profond que l'astre, c'est l'atome. Quand sous l'œil des penseurs l'infiniment petit sur l'infiniment grand se pose, il l'engloutit. Puis l'infiniment grand remonte et le submerge. Mère terrifiante et formidable vierge, multipliant son jour par son obscurité et sa maternité par sa virginité, chaste, obscène, et montrant au morne Pythagore son ventre ténébreux d'où sortent les aurores, la nature fatale engendre éperdument des chaos d'où jaillit cette loi, l'élément. Elle est le haut, le bas, l'immense ombre, l'aïeul. Toute sa foule étant elle-même, elle est seule. Monde, elle est la nature. Âme, on l'appelle Dieu. Tout être, quel qu'il soit, du gouffre, est le milieu. Pas de sortie et pas d'entrée, aucune porte. On est là. C'est pourquoi le chercheur triste avorte. C'est pourquoi le ciel juif succède au ciel romain. C'est pourquoi ce songeur épar, le genre humain, entend à chaque instant vagir de nouveaux cultes. C'est pourquoi l'homme, en proie à tant de noirs tumultes, rêve et tâte l'espace et veut un point d'appui, ayant peur de la nuit tragique autour de lui. C'est pourquoi le Messie est chassé par l'apôtre. C'est pourquoi l'on a vu crouler l'un après l'autre, ayant tous fait fléchir au peuple le genou, Brahma, Dagon, Baal, Odin, Allah, Vishnu. L'idolâtrie échoue, elle est sur tout abîme. Et dans tous les bas-fonds, le même essai sublime et la même chimère inutile, créant toujours le même Dieu pour le même néant. Il est pourtant ce Dieu. Mais sous son triple voile, la lunette avançant fait reculer l'étoile. C'est une sainte loi que ce recul profond. Les hommes en travail sont grands des pas qu'ils font. Leur destination, c'est d'aller, portant l'arche. Ce n'est pas de toucher le but, c'est d'être en marche. Et cette marche avec l'infini pour flambeau sera continuée au-delà du tombeau. C'est le progrès. Jamais l'homme ne se repose. Et l'on cherche une idole et l'on trouve autre chose. Chercher l'âme, elle échappe. Allez, allez toujours. C'est parce que je roule en moi ces choses sombres, c'est parce que je vois l'aube dans les décombres, sur les trônes le mal, sur les autels la nuit. C'est parce que, sondant ce qui s'évanouit, bravant tout ce qui règne, aimant tout ce qui souffre, j'interroge l'abîme, étant moi-même gouffre. C'est parce que je suis parfois mage inclément, sachant que la clarté trompe et que le bruit ment. Tenter de reprocher aux cieux visionnaires leur crachement d'éclairs et leur toux de tonnerre. C'est parce que mon cœur, qui cherche son chemin, n'accepte le divin qu'autant qu'il est humain. C'est à cause de tous ces songes formidables que je m'en vais sinistre aux lieux inabordables, au bord des mers, au haut des monts, au fond des bois. Là, j'entends mieux crier l'âme humaine aux abois. Là, je suis pénétré plus avant par l'idée terrible et cependant de rayons inondés. Méditer, c'est le grand devoir mystérieux. Les rêves dans nos cœurs s'ouvrent comme des yeux. Je rêve et je médite, et c'est pourquoi j'habite, comme celui qui guette une lueur subite, le désert et non pas les villes. C'est pourquoi, sauvage serviteur du droit contre la loi, laissant derrière moi les molles cités pleines de femmes et de fleurs qui mêlent leur haleine et les palais remplis de rires, de festins, de danses, de plaisirs, de feux jamais éteints, je fuis. Et je préfère à toute cette fête la rive du torrent farouche où le prophète vient boire dans le creux de sa main en été pendant que le lion boit de l'autre côté. Découvrons maintenant les derniers poèmes que Victor Hugo a écrits et qui sont adressés à ses petits-enfants. Voici l'art d'être grand-père. Georges et Jeanne. Moi qu'un petit enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux. Georges et Jeanne. Et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière. Et j'accours à leur voix, vu que Georges a 2 ans et que Jeanne a 10 mois. Leurs essais d'exister sont divinement gauches. On croit dans leurs paroles où tremblent des ébauches, voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit. Et moi, qui suis le soir et moi qui suis la nuit, moi dont le destin pâle et froid se décolore, j'ai l'attendrissement de dire « ils sont l'aurore ». Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Ils s'entendent entre eux, se donnent leur raison. Jugez comme cela disperse mes pensées. En moi, désirs, projets, les choses insensées, les choses sages, tout à leur tendre lueur tombe et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur. Je ne sens plus la trouble et secrète secousse du mal qui nous attire et du sort qui nous pousse. Les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis. Je les regarde, et puis je les écoute, et puis je suis bon, et mon cœur s'apaise en leur présence. J'accepte les conseils sacrés de l'innocence. Je fus toute ma vie ainsi. Je n'ai jamais rien connu dans les deuils comme sur les sommets, de plus doux que l'oubli qui nous envahit l'âme devant les êtres purs d'où monte une humble flamme. Je contemple en nos temps souvent noirs et ternis ce point du jour qui sort des berceaux et des nids.
Petit pimpon à genoux sur la moquette, fait avancer son petit camion. Le casque d'or est posé sur sa tête, il y a urgence au bout du salon. Et bien des fois, quand je le regarde, je me vois du temps où je jouais comme ça au même jeu. Une belle image à prendre. Et puis sur toi seul toute ma vie s'attarde. Tu me fais vivre un monde où je me sens toujours tellement mieux, mieux que je n'osais l'attendre. Et petit pimpon s'endort dans nos bras.
Et pour conclure, voici persévérance. N'importe. Allons au but. Continuons. Les choses, quand l'homme tient la clé, ne sont pas longtemps closes. Peut-être qu'elle-même, ouvrant ses pâles yeux, la nuit, lasse du mal, ne demande pas mieux que de trouver celui qui saura la convaincre. Le devoir de l'obstacle est de se laisser vaincre. L'obscurité nous craint et recule en grondant. Regardons les penseurs de l'âge précédent, ces héros, ces géants qu'une même âme anime. Détachés par la mort de leur travail sublime, passés les pieds poudreux et le front étoilé, saluons la sueur du relais dételé et marchons. Nous aussi, nous avons notre étape. Le pied de l'avenir sur notre pavé frappe. En route, poursuivons le chemin commencé. Augmentons l'épaisseur de l'ombre du passé. Laissons derrière nous, et le plus loin possible, toute l'antique horreur de moins en moins visible. déjà le précurseur dans ses brumes brilla. Platon vint jusqu'ici, Luther a monté là. Voyez de grands rayons marquent de grands passages. L'ombre est pleine partout du flamboiement des sages. Voici l'endroit profond où Pascal s'est penché, criant « gouffre ». Jean-Jacques, où je marche, a marché. C'est là que, s'envolant lui-même aux cieux, Voltaire, se sentant devenir sublime, a perdu terre, disant « je vois », ainsi qu'un prophète ébloui. Luttons comme eux. Luttons le front épanoui. Marchons. Un pas qu'on fait, c'est un chant qu'on révèle. Déchiffrons dans les temps nouveaux la loi nouvelle. Le cœur n'est jamais sourd. L'esprit n'est jamais là, et la route est ouverte aux fiers apostolats. Ô tous, vivez, marchez, croyez, et soyez tranquilles.
Ça peut pas faire de mal.
Pierre Desproges.
Victor Hugo, le plus grand poète de tous les temps. L'élévation de sa pensée et la grandiose majesté de ses alexandrins ont plus fait pour le prestige de la France que le camembert qui supporte d'ailleurs moins bien le voyage. C'est pourquoi nous devons toujours rendre hommage à Victor Hugo, mais sans bouger les oreilles. Parce que rendre hommage à Victor Hugo en bougeant les oreilles, ce serait un sacrilège.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Manuel Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Valérie Bourg. Bonne soirée et à la semaine prochaine.